Alors, 2 Corinthiens, chapitre 1, vous allez voir cela sur l'écran, chers amis, si vous voulez suivre cela comme ça, vous le pouvez. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la Caillie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frère, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Jusque-là, notre lecture. Donc, laissez-moi vous donner aussi juste quelques nouvelles à propos de l'implantation à Louvain-la-Neuve. On n'en a pas parlé lors des annonces, mais j'aimerais vous dire qu'à la fin de l'année dernière, ils se sont réunis pour leur première fête de Noël. Et tellement ils étaient nombreux qu'ils devaient annuler en fait la salle réservée afin de prendre la salle Aula Magna à la grande place de Louvain-la-Neuve. 1100 places dans cette salle. Et la salle était remplie. Roby, il vient d'annoncer le budget pour l'implantation pour cette nouvelle année. Et nous ne sommes pas dans des milliers, ni dans des 10 milliers, mais 1 million d'euros est prévu pour l'année prochaine. Oui, malgré le fait que ce n'est que le début, ça a tellement bien démarré que ceux qui soutiennent cette implantation s'engage pour une année importante. J'ai vu sur YouTube juste avant-hier qu'il y a les 2 pasteurs de cette implantation, Roby et James, sont parmi les 10 premiers à avoir le plus d'abonnés en ce début de janvier. Tellement ils sont impressionnants. Leur puissance spirituelle interpelle des uns et des autres. Ce n'était que hier que j'ai vu dans un article dans Le Soir mentionnant les rendez-vous tenus récemment avec le bourgmestre et d'autres acteurs importants sur le site de Louvain-la-Neuve pour un projet de construction de bâtiments impressionnant. Roby rigole un tout petit peu et il a raison, parce que oui, il y a de l'ironie dans ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas vrai. On rigole, à juste titre, mais tout de même, je pense qu'il y a quelque chose derrière le sentiment d'écouter de telles nouvelles qui révèle le désir que nous avons de réussir dans le ministère. Le désir de pouvoir partager ce genre de nouvelles. C'est un grand désir d'avoir un grand nom, d'avoir un grand succès, d'avoir un pouvoir spirituel, d'avoir une louange impressionnante. C'est attirant, cela, pour nous. Et cela est un reflet de notre culture, je pense. Il faut simplement penser à Facebook ou Instagram et ce que nous mettons sur Facebook ou Instagram. Combien de photos sont les photos de vous qui sont moches? qui vous démontre découragé parce que tout va mal chez vous. Combien de photos montrent un plat que vous avez préparé qui n'a pas du tout réussi et qui était plutôt dégoûtant? Combien de photos y a-t-il de vous habillé de manière moche? Combien de photos y a-t-il de votre famille lorsque vous êtes tous grincheux les uns envers les autres? Nous avons tendance à vouloir nous présenter sous notre meilleur jour. Nous pensons que ce n'est pas très intéressant, le côté plus banal de notre vie. Et si cela, c'est le cas de notre culture, alors bien sûr, cette même tendance se trouvera dans l'Église de Jésus-Christ. De valoriser, de rechercher ce qui semble être le plus impressionnant. Un missionnaire, donc, qui donne des nouvelles à son Église mère, préfère parler des conversions que des échecs. Une église comme la nôtre qui prépare son assemblée générale bientôt préfère mettre en avant les choses qui se sont bien passées plutôt que celles qui ont échoué l'année dernière. Et ce problématique-là, c'est au cœur de cette lettre de 2 Corinthiens. C'est une lettre de l'apôtre Paul envers une église que lui-même il a fondée à travers son ministère. Mais c'est une église avec laquelle il a eu des difficultés après l'avoir implantée lors de son deuxième voyage missionnaire. Vous pouvez trouver ça dans le livre des Actes. Il retournait pour une visite qu'il décrit dans la deuxième lettre de 2 Corinthiens que nous avons. Il décrit cette visite comme étant pénible. Et cela suscitait une autre lettre de sa part, qui date d'avant 2 Corinthiens, mais que nous n'avons plus. Mais cette lettre aussi était très difficile. Cela tournait autour d'une attitude trop laxiste qu'avaient des Corinthiens au sujet de l'un ou deux responsables qui étaient farouchement contre Paul et son ministère. Ils ont considéré Paul très faible et avec peu d'importance face à d'autres apôtres, super apôtres on les appelle, qui avaient l'air très impressionnants, qui savaient bien parler, qui maîtrisaient la rhétorique du jour. Et cette lettre écrite au grand soulagement de Paul, nous le lisons ici dans 2 Corinthiens, était plus ou moins bien reçue de la part des Corinthiens. Mais Paul reste, en écrivant maintenant 2 Corinthiens, assez soucieux pour cette église. Parce que même si le problème immédiat a été réglé, le danger, c'est que des Corinthiens soient encore dirigés vers une compréhension fautive du ministère chrétien. Alors Paul écrit avec un ardent désir donc de rétablir une confiance entre des Corinthiens et lui, par rapport à son ministère, que son ministère est authentique. Et cette façon d'écrire, on le voit dès le début du chapitre 1. On voit juste dans les deux premiers versets que Paul leur écrit en tant qu'apôtre, avec l'autorité de Dieu. Il écrit à l'Église de Dieu à Corinthe. C'est-à-dire une Église qui appartient à Dieu et non pas à la culture corinthienne. Non, cette Église ne trouve pas son identité ailleurs que dans l'œuvre de Dieu. Et c'est une Église qui a besoin de reconnaître aussi son identité avec d'autres chrétiens, y compris Paul. Et donc, verset 2, on voit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Et ensuite, au lieu de commencer avec des propos de remerciement à leur sujet, au lieu de dire « Je remercie le Seigneur pour vous », ce qu'il fait souvent dans différentes lettres, il commence ici avec une bénédiction. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Il veut que ses Corinthiens partagent avec lui la consolation que lui, il a reçue, l'encouragement, donc, lui, il a connu de la part de Dieu. Et ce serait donc notre question que nous allons traiter ensemble. Connaissez-vous la consolation qui vient de Dieu au sein de votre ministère, votre service du Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes chrétien, disciple de Jésus-Christ? Connaissez-vous cette consolation qui vient de Dieu au sein de votre ministère aujourd'hui? Et pour nous aider à y répondre, et peut-être à comprendre même la question si cela vous dépasse, alors le reste du passage nous aide à aller au fond de ce problématique, de cette consolation. Et donc pour cela, nous allons voir, si vous avez le dos de votre feuillet sous les yeux, plusieurs éléments qui nous aident donc à creuser cette consolation. D'abord, le contexte de la consolation. Quel est le contexte dans lequel Paul a pu trouver de la consolation? La réponse est facile. Verset 4 nous dit quoi? Le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Toutes nos afflictions. C'est lors de ces afflictions que Paul découvre la consolation, l'encouragement de la part de Dieu. Quelles sont ces afflictions? Verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Paul, voyez-vous, n'a pas honte de parler de ses difficultés, de sa faiblesse, du fait que lui, il était désespéré. On ne sait pas exactement de quelle difficulté il s'agissait ici, mais il semble être plus que simplement une faiblesse physique ou une maladie. Il parle de lui et de son équipe. Nous avons été accablés. Donc Paul et ses co-ouvriers dans la mission confiée par le Seigneur ont connu des difficultés, des échecs. Ils ont connu, d'après 2 Corinthiens, le chapitre 11, l'emprisonnement, des coups. Il a été battu de verge, lapidé. Ils ont fait naufrage, oui, souvent en danger de mort, dit-il au chapitre 11. Sans parler, il continue, de sa préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Justement parce que ces églises n'allaient pas toutes bien. Et il s'est soucié pour ces différentes églises. Il savait donc ce que c'était d'être envahi, lui, par le désespoir, la fatigue, la frustration, l'opposition au sein de son ministère. C'était dur, son ministère. Et il n'avait pas honte d'en parler. Car c'est ainsi qu'il découvre que la consolation vient de Dieu, le Dieu de toute consolation. Si vous voulez, ici, c'est donc assez facile, je pense, à comprendre. C'est le principe du besoin. Ce n'est que lorsque je tombe malade que je découvre l'amour de mon épouse envers moi. Oui, je sais qu'elle m'aime, mais lorsque je tombe malade, elle est bien intentionnée envers moi. Si je vais bien, je ne fais pas appel à la bonté de mon épouse pour qu'elle m'apporte de l'eau chaude avec du citron et du miel. C'est sympa, mais si je vais bien, elle va me dire « prépare ça toi-même si tu en as besoin ». Mais quand je suis vraiment malade, je découvre que oui, bien sûr, elle est là pour moi. Principe du besoin. Je vois que je dépends d'elle. Et de même, dans l'église de Jésus-Christ, dimanche dernier, nous avons entendu des témoignages un peu de ce genre. Certaines circonstances, quelqu'un se trouve en difficulté et au-delà de ses forces. Et c'est ainsi que ces personnes ont témoigné que c'est Dieu seul qui les a consolés. Alex, qui dirige notre rencontre aujourd'hui, avait parlé de la perte de son père l'année dernière et que cela le poussait de réfléchir par rapport à ses propres limites à lui, de dépendre de Dieu d'une nouvelle manière. C'est vrai cela. Parfois, le Seigneur permet dans sa providence de vivre des choses qui enlèvent la couche de sécurité que nous avons mis en place, que nous avons en nous-mêmes notre dépendance. Et il enlève cette couche pour que nous découvrions la consolation qui vient de Dieu. Mais toutefois, je pense qu'ici, c'est plus que cela dans un sens général. Parce qu'ici, Paul témoigne de ses souffrances qui sont à cause de son ministère pour Christ. Ces souffrances pour Christ qui le poussent à découvrir le réconfort que Dieu lui donne en Christ. Donc voici donc le contexte de cette consolation. Qu'en est-il deuxièmement donc, de la source de cette consolation? Béni, verset 3, soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Père de toute compassion, si vous voulez. Au lieu de dépendre de nous-mêmes, lorsque tout va bien, lorsque tout est impressionnant, nous trouvons une consolation qui vient de Dieu, le Dieu compatissant. Si la souffrance, c'est à cause du ministère de Christ, la consolation se trouve grâce à cette bonne nouvelle de Christ qu'il proclame. Verset 5, deuxième partie, notre consolation abonde par Christ. Car c'est en Jésus-Christ que nous voyons le point culminant de la compassion de Dieu. Verset 2 nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix viennent de lui, de ce que Jésus-Christ a effectué pour nous sur une croix. Jésus, rappelons-nous, c'est le médecin divin. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais les malades. Pas pour des justes, mais pour des pécheurs. Il a compassion de nous, pourvu que nous nous reconnaissions notre besoin de lui, d'être guéri, d'être pardonné. Et donc, j'aimerais juste prendre une petite pause là et vous demander si vous avez pour vous-même goûté cette compassion, cette bonté, cette consolation qui vient de la part de Dieu. C'est le fondement de ce que c'est être un chrétien authentique. Le psaume 34 parle de l'Éternel et nous invite à goûter et voir combien l'Éternel est bon. Ce n'est pas juste qu'il est là, qu'il est souverain, qu'il règne, mais ce qu'il est bon, il est bon. Et ce n'est pas donc un ministère impressionnant que nous allons plaider devant le trône de Dieu pour qu'il nous accepte. Oui, Jésus, je sais que tu es le médecin divin, mais regardez, je ne suis pas aussi malade que cela. Regardez mon église, regardez mon service chrétien. C'est sur cette base-là que le médecin va nous traiter. Le médecin va nous traiter si nous voyons que je suis malade, que je plaide grâce de sa part. Avez-vous fait cela? Avez-vous fait cela? C'est la source de la compassion, de la consolation dont nous bénéficions. C'est la grâce, la bonté de Dieu envers nous en Christ. Qu'en est-il donc de la puissance de cette consolation, si vous voulez? La puissance vient de Dieu qui, fin du verset 9, ressuscite les morts. Paul peut se fier à Dieu, peu importe ses circonstances, à lui, car il sait qu'en se faisant, il se confie à un Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. C'est ça ce qu'il a fait suprêmement en Jésus-Christ, qui est ressuscité. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. L'espérance donc de Paul n'est pas une espérance vaine. Se fier à Dieu, c'est se fier à quelqu'un qui est pleinement capable de tout faire. Alex avait évoqué ça tantôt aussi pour nous. Ce n'est pas donc une promesse une fois que Dieu nous enlève alors de toute difficulté parce qu'il est puissant. Non, justement, c'est dans la difficulté ici que Paul découvre la consolation qui vient de Dieu. Mais c'est une confiance que peu importe la difficulté, Dieu a le pouvoir d'agir. C'est ça ce qu'il a fait pour Paul au verset 10, vous voyez cela? Il nous a délivrés, c'est lui qui nous délivrera d'une telle mort. Dieu agit dans la faveur de Paul, nous le voyons à maintes reprises dans le livre des Actes. Dieu délivrera, mais il le fera ultimement à travers la résurrection finale. Mais même lors de la difficulté de son ministère, Paul n'avait aucun doute quant au résultat final de son combat. Même s'il meurt, Dieu est celui qui ressuscite les morts. Et en principe, nous sommes tous appelés à mourir pour le Christ. Alex avait cité Marc chapitre 8, où le Christ nous dit que pour le suivre, nous devons nous renoncer à nous-mêmes et à nous charger de notre croix, de savoir que nous suivons le chemin de la croix. Et donc notre confiance est solide, car la puissance de Dieu n'est pas en doute, même si nous vivons la difficulté dans le ministère chrétien. Mais on pourrait toutefois se demander pourquoi le service de Christ doit être ainsi, avec de la souffrance. Et cela nous mène au modèle de cette dynamique de consolation dont nous voyons dans ces versets. Et le modèle, c'est le modèle de Jésus lui-même, de ses souffrances. Un frère de cette église m'a passé cette semaine un lien sur YouTube d'un des prédicateurs de l'évangile de la prospérité, Miles Monroe, il est décédé maintenant, qui disait lui lors d'une prédication assez connue que la bonne nouvelle, ce n'est pas le calvaire, là où Christ est mort sur la croix. Non, selon lui, la bonne nouvelle, c'est le royaume. Il dit aussi, la bonne nouvelle, ce n'est pas Jésus, c'est le royaume de Dieu ou le règne de Dieu. C'est le plan de Dieu pour nous de pouvoir par conséquent bénéficier de tout ce que ce royaume nous donne. La puissance de Dieu à l'œuvre en nous. Mais ici, nous avons un apôtre Paul faible, pas fort, qui bénéficie pas encore du royaume dans toute sa plénitude. Un Paul, d'ailleurs, qui n'a pas honte de parler de ses souffrances, de ses échecs. Pourquoi? Car le modèle de son ministère, c'est les souffrances de Christ lui-même. Verset 5. Les souffrances de Christ abondent en nous. C'est-à-dire que nos souffrances ressemblent aux souffrances de notre maître. Elles n'ajoutent rien à ce que notre maître a fait en mourant sur la croix. Mais elle se ressemble à ses souffrances parce que nous suivons le Maître. Et cela, chers amis, pour ceux qui souffrent avec une foi chrétienne qui est peu impressionnante, c'est profondément encourageant de savoir que Jésus lui-même a connu des souffrances. Lorsque nous essayons de parler à un voisin ou un collègue ou un ami de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et cette personne ne se sent pas être intéressée, s'irrite et vous évite par la suite. Lorsque vous essayez d'enseigner à l'école de dimanche et vous avez un bon nombre d'enfants qui ne font pas attention à ce qui est dit et vous vous découragez en disant « Mais pourquoi je fais ceci ?» Mais vous devez savoir que Jésus-Christ a aussi connu ceux qui ne s'intéressaient pas à écouter ce qu'il disait. Lorsqu'on se moque de vous parce que vous maintenez encore aujourd'hui une moralité sexuelle biblique et on vous accuse d'être intolérant, on vous accuse d'être démodé, vous devez savoir que Jésus-Christ a aussi connu de la moquerie de la part de ceux qui l'ont crucifié. Lorsque vous donnez de votre temps pour des tâches ingrates au sein d'une église, et ce que vous faites est peu reconnu de la part des autres, et vous vous dites, mais pourquoi je fais tout cela? Vous devez savoir que Jésus-Christ a été abandonné par tous ceux qui l'aimaient. C'est le même chemin que Jésus a tracé, que nous devons suivre. Nous suivons le Christ. Nos souffrances en suivant Jésus ne sont pas donc un échec, chers amis. Non, c'est le chemin tout à fait normal pour le disciple de Christ. Il n'y a pas moyen de faire court-circuit ici. Si nous voulons la consolation qui découle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous devons accepter qu'il faut passer par des souffrances qu'engendre cette bonne nouvelle. Moi, je pense rien qu'à différentes conversations entamées la semaine écoulée avec différents chrétiens engagés pour Christ que je connais. D'abord, un ancien d'une église évangélique qui se désespère car dans son église, il y a division entre le pasteur d'un côté et l'assistant pasteur d'un autre côté. Et c'est dur et c'est difficile. Je pense à une femme de pasteur qui lutte car elle accueille chez elle son frère et son compagnon homosexuel. Elle aura pu tout simplement dire « Ok, j'accepte que maintenant ça va. Il n'y a plus de soucis avec cela. » Mais la fidélité pour Christ pousse cette femme à maintenir son opposition à une telle relation tout en essayant d'accueillir son frère et son compagnon et de les aimer. Et cela, émotionnellement parlant, est usant. Cette personne disait de ne pas avoir dormi toute la nuit tellement elle était préoccupée par cela. On pense donc à ce pasteur dont nous avons prié pour lui, Lawan Amdimi au Nigeria, enlevé le 3 janvier par Boko Haram. Il disait à sa famille dans une vidéo diffusée par ceux qui le tiennent en captivité de ne pas s'inquiéter pour lui, car il faut respecter la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai que nous voyons la main providentielle et souveraine de Dieu en toutes circonstances, mais il faut s'inquiéter pour lui, parce que c'est de la souffrance. C'est normal, des souffrances dans le ministère chrétien. Je pense, là maintenant, de manière, je pense plus juste à l'implantation à Louvain-la-Neuve, qui aimerait voir ce semestre-ci, pour le début du mois de septembre, plus de personnes qui se joignent à eux dans cette équipe pour pouvoir démarrer l'église. Est-ce possible, parmi nous, mais peut-être d'autres chrétiens dans d'autres églises, on essaie d'inviter d'autres personnes à se joindre à cette équipe? Est-ce possible qu'en partie, il y a une réticence de vouloir se joindre à une telle initiative parce qu'à ce moment, c'est encore fragile? Est-ce que d'autres veulent se joindre lorsque c'est plus établi? Parce que si c'est plus établi, c'est moins coûteux, moins exigeant, plus facile. Cherchons-nous, chers amis, de manière générale, donc une vie chrétienne sans difficulté. Si oui, nous nous privons du réconfort de l'Évangile, de la consolation dont parle l'apôtre Paul ici. Le modèle pour nous, c'est Christ, pas à la croix de Calvaire. Paul prêche Christ crucifié. Vous imaginez être un ministre chrétien et dire que la bonne nouvelle, ce n'est pas Jésus? Ce n'est pas le calvaire, c'est aberrant, chers amis. Et pourtant, parmi nous, nous restons attirés vers un évangile qui demande, qui promet de la prospérité. Le modèle, c'est Christ. Alors le but, on a encore deux choses à voir ensemble. Quel est donc le but de cette consolation que Paul reçoit? Verset 4. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Cela soulève un élément important qui devrait avoir lieu dans l'Église de Jésus-Christ, à savoir une interdépendance les uns les autres. Verset 6, si nous sommes affligés, dit l'apôtre Paul, c'est pour votre consolation, pour votre salut. Il s'est donné pour la bonne nouvelle, pour que d'autres puissent être consolés, puissent recevoir le salut qui se trouve en Christ. Et donc, ils sont consolés. C'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Paul cherche donc la même consolation, encouragement pour des Corinthiens, qu'il a découvert pour lui-même à travers ses souffrances dans le ministère. Leur consolation se réalisera par l'eau de souffrance, il dit, car cela produira de la patience, de l'endurance dans la foi. Paul cherche à ce qu'il soit une bénédiction pour d'autres à travers ses souffrances. Et je pense que notre tendance, c'est souvent l'inverse. Si les choses vont mal, souvent je me tais et je me retire même d'une assemblée pendant un temps. Si je suis missionnaire chrétien, je n'envoie pas de lettres de prière à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de bonne nouvelle à partager. On adopte, si vous voulez, un stoïcisme chrétien, mais ça c'est une contradiction. On ne peut pas être chrétien et stoïque dans notre façon d'aborder la difficulté. Non, de faire cela, c'est de nous replonger dans une dynamique d'orgueil. Je dois m'en sortir avant de pouvoir parler par la suite à d'autres. Ce n'est pas pour dire que nous prenons donc la difficulté dont nous expérimentons trop à la légère, non. Mais on se souvient jusqu'à quel point c'est bénéfique pour les autres qu'ils savent que oui, moi aussi, je dépends de Dieu entièrement pour tout ce qu'il me donne dans la vie chrétienne. Je ne dépends pas de moi-même. Et dans l'Église, le signe qui fait preuve de notre dépendance de Dieu, c'est de célébrer le repas du Seigneur régulièrement au sein de l'Église. De participer à la scène, ça ne fait pas preuve de réussite spirituelle, ça fait preuve de faiblesse, dépendance. J'ai besoin de ce que Dieu fait pour moi en Christ. Le but donc de notre consolation, c'est que nous jouons un rôle d'encourager les uns les autres à dépendre de Dieu eux-mêmes. Et c'est dans ce but-là que cette interdépendance que Paul demande la prière au verset 11. Vous nous assistez vous-même de vos prières. Pourquoi? Car cela nous mène au fruit de cette consolation reçue. Quel est le fruit de cette consolation reçue de la part de Paul? Le fruit, c'est de la reconnaissance de la part des autres. C'est réjouissant. Pourquoi? Verset 11, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs, par la prière, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc vous voyez, les Corinthiens, ils prient pour Paul, qui lui est faible dans son ministère, il est dans le besoin. Dieu répond à les prières de ces personnes en faveur de Paul. Et cela suscite quoi? De la reconnaissance envers Paul, car Paul est un homme impressionnant, il a effectué de grandes choses. Ça, c'est un problème dans nos églises aussi, d'avoir un ministre de Christ autosuffisant, où la gloire revient au ministre de l'Église parce qu'il est impressionnant. Souvent, on identifie une Église à une personne, à un pasteur. Ah oui, oui, votre Église, c'est l'Église de X. Ah oui, oui, je le connais. Oh, j'ai écouté parfois ces messages. Oh, j'aime bien un tel. Le fruit d'un ministère qui connaît la consolation de Dieu dans sa faiblesse, c'est que les uns et les autres rendent grâce à Dieu pour la délivrance à Dieu. Alors, chers amis, on termine. Que toute donc la gloire te revienne, Seigneur. Souvent, c'est ce qu'on proclame, n'est-ce pas? Tout en disant, mais tout de même, Seigneur, que je puisse avoir un tout petit peu pour moi, si vous le permettez. Pour mon Église, pour mon ministère. C'est le piège de l'orgueil humain. Cette année, vous allez savoir, vous allez connaître des circonstances que Dieu permettra pour que vous puissiez rester humble dans votre ministère, dans votre engagement pour le Christ en tant que son disciple. Soyez reconnaissants envers Dieu pour ces circonstances, car encourageons-nous les uns les autres à dépendre uniquement de lui. Et ainsi, chers amis, nous allons découvrir une fois de plus le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Prions ensemble. Nous voulons être un peuple, Seigneur, qui prie les uns pour les autres, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres dans notre assemblée, mais pour d'autres chrétiens aussi en dehors de cette assemblée, ailleurs, dans le monde, comme nous l'avons déjà fait. Et nous voulons faire cela, non pas pour que la gloire soit pour des personnes impressionnantes, des ministres impressionnants, mais pour que la gloire te revienne, pour que nous puissions découvrir une fois de plus à quel point tu es le Dieu qui ressuscite des morts. Nous ne voulons pas, Seigneur, alors placer notre confiance en nous-mêmes, dans notre Église en tant que telle, mais de placer notre confiance en toi, celui qui ressuscite les morts, celui qui nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ à souffrir pour nous. Et donne-nous donc de souffrir aussi avec le Christ, afin que notre consolation abonde par le Christ. Utilise les différentes circonstances dont nous devons faire face pour nous façonner à l'image de Christ. Nous te le demandons en son nom. Amen.